8h49.
Chapitre 7, la chapelle.
Cette même ville de New Bedford abrite une chapelle des baleiniers, et rares sont les pêcheurs moroses qui, sur le point de s'embarquer pour l'océan Indien ou le Pacifique, n'y font pas une visite dominicale. Je n'ai pas fait d'exception. À peine rentré de ma promenade matinale, je ressortis pour m'acquitter de cette mission très particulière. Le soleil qui brillait sans chaleur dans un ciel clair avait fait place à une tourmente de neige fondue mêlée de brouillard. En mitouflé dans mon manteau à poils, fait de cette peau qu'on appelle oursin, je m'élançais contre ces bourrasques opiniâtres. Quand j'entrais dans le temple, j'y trouvais une assemblée clairsemée de marins, de femmes et de veuves de marins. Il y régnait une quiétude ouatée que brisait de temps à autre les hurlements de la tempête. Chacun des silencieux fidèles semblait s'être assis à l'écart des autres, comme si la peine silencieuse de chacun était insulaire et incommunicable. Le chapelain n'était pas encore arrivé, et ses îlots de solitude muette attendaient en regardant fixement des tablettes de marbre bordées de noir, encastrées dans le mur de part et d'autre de la chaire. J'en reproduis ici trois exemples sans prétendre citer le texte exact des épitaphes. À la mémoire de John Tablott, perdu en mer à l'âge de 18 ans, près de l'île de la Désolation, au large de la Patagonie, le 1er novembre 1836, cette plaque est apposée à sa mémoire par sa sœur. À la mémoire de Robert Long, Willis Ellery, Nathan Coleman, Walter Canny, Seth Massey et Samuel Clegg, membres de l'équipage d'un des canots de l'Elisa, entraînés par une baleine et perdus au large des côtes dans le Pacifique, le 31 décembre 1839. Ce marbre est apposé ici par leurs camarades de bord restés en vie. À la mémoire du regretté capitaine Ezekiel Hardy, tué par un cachalot à l'avant de sa baleinière sur la côte du Japon, le 3 août 1833, cette tablette est érigée à son souvenir par sa veuve. Secouant la neige fondue de mon chapeau et de ma veste, lustrée de givre, je pris la place près de la porte et me tournant de côté, fus surpris de trouver Quickegg à quelques pas de moi. Impressionné par la solennité du lieu, il y avait dans son expression un mélange d'étonnement et de curiosité incrédule. Ce sauvage fut la seule personne de cette assemblée qui parut remarquer mon entrée, parce que, ne sachant pas lire, il n'était pas occupé à déchiffrer les frigides inscriptions sur le mur. J'ignore s'il y avait dans l'assistance des parents des marins dont les noms étaient gravés là, mais tant d'accidents de pêche ne font l'objet d'aucune mention écrite, et si flagrante était sur les visages de plusieurs femmes présentes, plus d'ailleurs que sur les habits de la douleur, les marques d'un deuil inconsolable, qu'il m'était impossible de douter que la vue de ces stèles lugubres ne rouvrit pour les faire saigner à nouveau dans tous ces cœurs émus d'inguérissables blessures. Ô vous dont les morts gisent sous l'herbe verte, et qui pouvez dire, pointant un doigt parmi les fleurs, « Ici, c'est ici que repose mon bien-aimé ». Vous ne savez pas le sentiment de désolation qui dévore des poitrines comme celle-ci. Vous ne savez pas l'affliction causée par ces tablettes vierges au bord noir, qui ne recouvrent nulle cendre. Quel désespoir se lit dans les inscriptions immuables. Quel abîme mortel et quelle soudaine infidélité disent ces lignes qui semblent ronger toutefois et refuser la résurrection aux êtres morts sans sépulture, disparus on ne sait où. Ces tablettes pourraient aussi bien avoir été apposées dans les grottes d'Elephanta. Dans quel recensement des vivants, les morts de l'humanité sont-ils comptés? Pourquoi un proverbe universel veut-il qu'ils ne parlent pas alors qu'ils détiennent plus de secrets que les dunes de Goodwin? Comment se fait-il que d'un mot impie et lourd de sens, nous disions d'un homme qu'il s'en est allé hier pour l'autre monde, alors que nous ne lui accordons pas cette expression s'il se contente de s'embarquer pour l'Orient, le plus lointain de notre planète de vivants? Pourquoi les compagnies d'assurance sur la vie ne paient-elles pas de primes sur la vie au-delà de la mort? Quel est cet état de paralysie absolue et éternelle? Quelle est cette catalepsie sans remède où se trouve plongé aujourd'hui encore le vieux Adam qui mourut il y a 60 siècles? Et d'où vient que nous refusions d'être consolés de la perte de ceux qui jouissent pourtant, prétendons-nous, d'une indicible félicité. D'où que les vivants s'acharnent à réduire les morts au silence, d'où que la simple rumeur d'un coup entendu dans une tombe sème la terreur dans une ville entière. Toutes ces choses ne sont pas dépourvues de signification. La foi, pourtant, tel un chacal, trouve son aliment parmi les sépultures, et c'est précisément de ces doutes qui planent sur les tombeaux qu'elle tire l'espérance qui la fait vivre. Il est à peine besoin de dire les sentiments qui m'agitaient tandis que je contemplais, à la veille de mon départ pour Nantucket, ces stèles de marbre, et lisais à la lumière indécise de ce jour morne et assombri le sort des pêcheurs qui m'avaient précédé. Oui, Ismaël, un sort identique pourrait être le tien. Cependant, je ne sais pas pourquoi je ne tarderai pas à me sentir à nouveau le cœur joyeux. Les délicieuses séductions du départ, l'occasion unique d'une promotion semble-t-il, mais oui, un canot défoncé me vaudra un brevet d'immortel. Ah, la Camarde est donc de la partie. Et elle vous précipite son homme dans l'éternité brutalement, sans un cri comme un paquet. Mais qu'importe, il me semble que nous avons fort mal compris cette question de la vie et de la mort, que ce que l'on appelle mon ombre sur terre est ma véritable substance, que lorsque nous considérons les choses spirituelles, nous ressemblons par trop à des huîtres qui, observant le soleil à travers l'eau de mer, prennent cette eau épaisse pour l'air le plus impalpable, et que mon corps n'est que la lie de mon être supérieur. Prenne mon corps qui veut, prenez-le, vous dis-je, il n'est pas à moi. Un banc, donc, pour Nantucket. Et que coule, s'il le faut, le canot crevé en emportant mon cœur, car pour ce qui est de défoncer mon âme, Jupiter lui-même ne le pourrait.